Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Pauline Verdusier.
C'est parti. La fin des haricots, de la libido, bref, une petite mort sociale. Heureusement, le féminisme est là pour changer de regard et se réapproprier la ménopause, puisque c'est de ce sujet brûlant dont on va parler cette semaine, avec Pauline Verdusier. Salut !
Salut !
Comment ça va ?
Écoute, ça va bien. En ce moment, je suis assez occupée. Je travaille en fait sur le numéro anniversaire des 10 ans du magazine érotique L'Imparfaite. C'est assez passionnant. Ça va sortir cet automne ou début d'hiver. On vous tiendra au courant, mais ça m'occupe bien en ce moment. Et toi ?
Bon anniversaire, L'Imparfaite.
Merci.
Moi, j'ai l'impression de répéter toujours la même chose à chaque épisode, mais je finis toujours mon livre. Et donc, la prochaine fois qu'on enregistrera, ce sera enfin terminé.
Courage.
Voilà. Donc, en attendant, je n'ai plus de vie. Voilà. Et alors, du côté des news féministes, quoi de neuf dans l'actualité ?
Oui, alors, je voulais revenir en fait sur la libération de Aja Raissouni. C'est la journaliste marocaine qui a été condamnée à 1 an de prison pour avortement, alors qu'elle dit ne jamais avoir avorté, et qui a dénoncé un procès politique. En fait, elle avait couvert les mouvements de contestation dans le RIF. C'était des manifestations qui dérangeaient le pouvoir. Et donc, clairement, c'était une arrestation arbitraire. Et en fait, elle a été graciée par le roi sous la pression de l'opinion internationale notamment.
Ouf.
Alors oui, mais c'est à la fois une bonne nouvelle pour elle, mais en même temps, sa condamnation, elle reste inscrite dans son casier judiciaire. Il n'y a plus moyen de faire appel vu qu'elle a été graciée, mais alors qu'elle n'a rien fait. Enfin, je veux dire, et puis même, c'était des lois bien sûr misogynes. Donc ça reste une illustration de comment ces lois sexistes ont été utilisées pour faire taire une femme journaliste. Et pour rappel, elle avait été arrêtée en sortant de chez le médecin. En fait, elle dit qu'elle y était allée pour soigner une hémorragie, mais bon, enfin, peu importe en fait qu'elle ait avorté ou pas, mais apparemment pas en tout cas. Et en plus, elle avait été forcée de subir un examen gynécologique après avoir été arrêtée. Donc voilà, je pense qu'il fallait revenir sur cette histoire parce que c'était extrêmement choquant.
Oui, les violences gynécologiques et obstétricales, donc ce n'est pas qu'en France, c'est aussi au Maroc. Alors, pour parler un peu du gros sujet de la semaine, après les règles et l'endométriose, nous, on parie que la ménopause, ça va être le gros sujet de 2020.
Oui.
Voilà, vous pourrez nous rendre des comptes l'année prochaine et on espère qu'on va en entendre parler de plus en plus. Donc, c'est un sujet qui concerne une nouvelle fois nos corps et notamment nos corps vieillissants, enfin, comme tous les corps, en fait, puisqu'on n'y échappera pas.
On ne rajeunit pas avec le temps.
Et non. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la ménopause ? Pourquoi est-ce que c'est un gros mot ? On verra en quoi ça reste un sujet tabou parce qu'il touche à la sexualité, à l'intimité et aux représentations donc autour de la féminité et du vieillissement. C'est vrai qu'on en parle peu et quand on en parle, c'est souvent de manière péjorative pour renvoyer à l'idée d'une décrépitude des femmes, merci, alors que les vécus sont parfois assez différents. Donc voilà, heureusement, on est là pour déconstruire l'agisme, les stéréotypes autour de la féminité. Et comme on va parler de bouffée de chaleur, ça tombe bien, on est écoute Ice Ice Baby.
Donc on va d'abord donner une petite définition. La ménopause, donc ça correspond à l'arrêt des cycles menstruels, l'arrêt de l'ovulation et des règles. Et ça arrive généralement quand on approche de la cinquantaine. Donc en France, c'est en moyenne à 51 ans. Après, il n'y a pas de règles, ça peut être avant ou après. Voilà. Et l'OMS estime qu'une femme est ménopausée après une année sans règles. Voilà, donc ça c'est la définition. Et on peut aussi parler de préménopause ou de périménopause. Donc ça c'est la période avant la vraie ménopause, si je puis dire, durant laquelle on peut avoir aussi des cycles plus irréguliers.
Oui, et alors on parle très peu de la ménopause masculine, puisqu'elle existe aussi, les hommes ont la leur, et c'est vrai qu'on en parle peu parce que bandé mou, ça reste un peu secret. Mais sachez que l'andropause existe, puisque c'est une baisse de la testostérone qui survient généralement entre 45 et 65 ans, et qui peut, elle aussi, entraîner des sautes d'humeur, par exemple. Donc si votre patron fait la gueule, vous pouvez lui dire, c'est pas un peu l'andropause.
Et ça fait bandé mou aussi ?
Bah, parfois, ça peut.
D'accord. Alors, d'où vient la ménopause ? Donc, en fait, en cherchant un peu sur le sujet, j'ai trouvé plein de théories farfelues qui m'ont laissé sans voix. Donc, il y a des théories, en fait, qui cherchent à expliquer pourquoi elle est apparue chez les humaines et pas chez d'autres mammifères. Donc, par exemple, j'ai trouvé l'hypothèse de la grand-mère, entre guillemets, enfin, je cite, qui dit que la ménopause est survenue en fait pour permettre de diminuer les risques de mourir d'une grossesse tardive. Et en fait, ceci aurait été un moyen pour les femelles issues des espèces ayant une longue espérance de vie de survivre et, tadam, d'en profiter pour éduquer, protéger leurs enfants et leurs petits-enfants le plus longtemps possible. Mmh. Donc en gros, on serait ménopausé pour mieux accomplir notre devoir de génitrice et de garde d'enfants. Cool. Voilà.
Bah après, ça suppose déjà d'avoir une longue espérance de vie. Donc exactement. Déjà, c'était pas gagné avant.
Exactement. Il y a aussi un professeur canadien de l'université McMaster qui affirme que, comme beaucoup d'hommes d'un certain âge cherchent à se maquer avec des femmes plus jeunes, en fait, ça aurait provoqué une baisse des hommes disponibles pour les femmes à mesure qu'elles vieillissent. Et donc, ça serait à l'origine d'une mutation génétique qui aurait créé la ménopause. Donc ça, c'est complètement...
Yann, moi, sort de ce corps.
Donc on ne sait pas trop quoi en penser. Et donc on voit bien que la ménopause a nourri de drôles de pensées.
Ok, trêve d'élucubration. En tout cas, c'est vrai que ce qui a marqué l'histoire de la ménopause jusqu'ici, c'est surtout sa pathologisation. C'est-à-dire qu'elle a souvent été traitée en fait, comme une sorte de maladie, de déficience ou de dégénérescence. Et pour en parler, on va s'appuyer sur le livre de Cécile Charlap qui s'appelle « La fabrique de la ménopause » qui a été publié en février dernier aux éditions du CNRS.
C'est plus sérieux que les précédentes voilà. sources.
Et donc, on apprend, voilà, sans surprise, que la théorisation de la ménopause a nourri toute une rhétorique problématique. Donc, par exemple, cette nouvelle catégorie a vraiment accompagné l'émergence du modèle de bicatégorisation des sexes, c'est-à-dire le fait de classer les êtres humains dans des catégories donc très binaires de féminin et de masculin et de les hiérarchiser. Donc, on se doute que masculin est supérieur qualitativement à féminin. Et déjà, en fait, avant l'apparition du mot ménopause, dans les traités de médecine, on parlait de l'âge critique. Et ensuite, le terme de ménopause est apparu au 19e siècle. Et à partir de ce moment-là, on va vraiment l'analyser à travers la fameuse théorie des humeurs du corps. Donc les humeurs, c'est les fluides, hein, pas la bonne humeur, qui était en vogue à l'époque. Et le problème, c'est que évidemment, ça va permettre à la médecine de diffuser l'idée toujours bien moisie d'un féminin instable, renvoyé à la nature et soumis à ses émotions.
C'est ça, contrairement au masculin qui serait d'une stabilité parfaite.
C'est ça.
En toutes circonstances. Donc oui, au 19e siècle, le concept même de ménopause va nourrir tout ça. Donc les médecins pensaient par exemple qu'elle était responsable de bouffées délirantes, d'hystérie, donc ça la pensée freudienne va dans ce sens-là, de paralysie et de plein d'autres choses très étonnantes comme des penchants pour les liqueurs fortes, le manque de contrôle de soi infantile, les crises érotiques, les bouffées de jalousie, résultat inévitable de la désaffection naturelle du mari ou de l'amant. Ça, on ne sait pas d'où ça sort.
Tout et n'importe quoi.
Comme si les femmes devenaient des pestiférées que plus aucun homme ne voudrait toucher. On est étonnés. Et on leur conseillait d'ailleurs de cesser toute activité sexuelle parce que c'était pas bon pour elles. Et on leur posait des sangsues sur les cuisses, voire on leur faisait subir des lobotomies. Voilà, c'est merveilleux.
Merci, très agréable.
Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui du coup ?
Alors, on n'en est plus aux lobotomies, heureusement, mais on parle toujours de bouffées de chaleur ou de vagues de chaleur, heat wave en anglais. Comme disait le groupe de Martha and the Vandellas. Donc c'est pas tellement plus réjouissant à l'heure actuelle, puisqu'en fait cette rhétorique du manque et de la déficience perdure encore dans les discours médicaux et sociaux. Et en fait ça revient toujours à renvoyer les femmes au biologique, on a l'habitude. Et donc au XXe siècle, les discours médicaux ont présenté surtout la ménopause comme une carence en hormones. Donc il y a des gynécos qui pensaient que ça menaçait l'essence féminine, puisque évidemment sans hormones, est-ce qu'on est vraiment une femme ? Qu'est-ce qu'on est ? Un homme ? Voilà, au secours. Toute la société va s'effondrer. Et donc, cet héritage fait que lorsqu'on parle aujourd'hui de ménopause, par exemple dans les médias, c'est souvent pour parler uniquement des symptômes gênants qui existent, mais qui ne sont pas forcément les mêmes d'une femme à l'autre. Et donc, la ménopause va être présentée comme un moment de la vie peu enviable, où on est sujette à des suées, une sécheresse vaginale, une libido en berne, sans parler des risques de cancer, d'ostéoporose, les risques de maladies cardiovasculaires, voilà, qui encore une fois existent, mais ne sont pas non plus un passage obligé.
Ouf, c'est comme si en fait on ne pouvait pas penser la ménopause en dehors des symptômes et d'une culture médicalisée qui renvoie toujours donc nos corps à un risque, une notion de risque et de dégénérescence. Et donc cette représentation pathologisante de la ménopause, ça vient aussi, on l'imagine, d'un modèle dominant hétéronormé, hétérosexiste.
Quelle surprise !
Voilà, qui fait qu'une femme en fait devrait toujours se définir uniquement en fonction du désir masculin, évidemment. Et donc c'est pourquoi on se la représente aussi comme un moment où on on deviendrait moins désirable, comme on l'a vu tout à l'heure, renvoyait à une sorte de date de péremption sexuelle et reproductive, comme si notre vie était derrière nous, alors que pourtant il reste beaucoup d'années à vivre. Bref, c'est un moment de disqualification sociale, comme le dit Cécile Charlap, et ça contribue à l'idée que le vieillissement féminin serait plus disqualifiant que le masculin, que les hommes vivraient leur meilleure vie à 50 ans, alors que les femmes seraient bonnes pour le cercueil.
Oui, bah oui, parce qu'eux, ils se bonifient telle une bouteille de bon vin, contrairement à nous. Et je pense que c'est bien aussi de se décentrer de notre point de vue occidental, parce que dans certaines cultures traditionnelles, la ménopause a été perçue de manière totalement différente. Et c'est à ce moment-là de la vie qu'on donne aux femmes certaines prérogatives et certains pouvoirs de décision qui étaient d'habitude réservés aux hommes, notamment dans certains rites ou lors de certaines décisions politiques. Donc Françoise Héritier, l'anthropologue qu'on cite ici souvent, a observé par exemple au Burkina Faso, chez les lobbies, que les femmes ménopausées se rapprochaient de la communauté des hommes, et dans une autre tribu, donc chez les Indiens Piegan, je ne sais pas si je prononce bien, que les femmes ménopausées, je cite, urinaient publiquement et chantaient des chants d'hommes. C'est plutôt cool.
Voilà. Et on peut aussi dire que le sujet de la ménopause, il est inséparable de la manière dont on perçoit socialement les femmes de plus de 40 ans en Occident.
Aïe, aïe, aïe.
Voilà, par exemple, en fait, on estime que ces femmes n'ont plus le droit d'avoir des enfants, quand bien même elles seraient encore fertiles, avec des discours qui vont être culpabilisants autour des risques de grossesse tardive,
oui,
entre guillemets.
Voire grossesse gériatrique.
C'est vrai, on dit ça? C'est incroyable. Donc pareil, encore Cécile Charlap, elle dit qu'en fait, ça s'appelle la ménopause sociale, qui, comme son nom l'indique, ne repose pas que sur des réalités biologiques, car en fait c'est une ménopause symbolique qui arrive avant la vraie ménopause physiologique. Donc c'est l'idée du bon âge pour avoir un enfant. En gros, on te dit, passé 40 ans, fini, remballe tes ovules, t'es plus bonne à féconder, si tu fais un enfant tard, tu n'es rien qu'une égoïste. Donc voilà, donc elle dit, les femmes passent du pouvoir de procréer au devoir de ne plus le faire, je trouve ça assez parlant. Mmh. Et donc cela alors que la paternité tardive, entre guillemets, présente elle aussi des risques qui sont peu ou voire jamais abordé. Mmh. Et donc, par exemple, la chercheuse, pour illustrer son propos, elle dit que quand on interviewe Richard Berry, qui a été père à 64 ans, on ne lui dit jamais rien. Et quand on interviewe Monica Bellucci, qui a été mère à 46 ans, eh bien, on lui pose tout le temps la question, mais pourquoi donc ?
Ouais, donc double standard, quoi, comme d'habitude. Et donc, il y a aussi l'idée qu'il faudrait absolument dompter les symptômes, parce qu'en fait, l'espace public n'aime pas, de toute façon, les manifestations corporelles féminines, puisqu'il faut toujours prendre le moins de place possible. Et donc, Cécile Charlap explique qu'on va prescrire beaucoup de traitements hormonaux comme un moyen de dresser tous ces désagréments physiques, mais que finalement, ça dépend aussi de l'entourage, du milieu où on évolue et de comment on le vit, puisqu'il y a des femmes qui ne voient pas leurs symptômes comme des problèmes. En revanche, il y en a d'autres qui disent avoir réellement besoin de traitements hormonaux, notamment celles qui sont dans des milieux professionnels urbains et masculins. D'ailleurs, il y a un témoignage dans la newsletter The Lily, d'une femme, Alice Miller, qui a 61 ans, et qui explique que durant sa période de préménopause, elle avait des bouffées de chaleur et des suées au boulot, et que sa chef lui a dit de faire quelque chose parce que, je cite, ça perturbait le service dans lequel elle travaillait. Merci, sympa.
Ouais, moi, ça me fait penser à la tache de sang de règles ou à la fuite de lait maternel sur la chemise, qui sont vues comme dégueulasses dans l'espace de travail et dans l'espace public tout court. Alors que j'ai l'impression qu'en fait, la sueur masculine, peut-être que je me trompe, mais si elle n'est pas trop étendue, j'ai l'impression qu'elle est quand même moins stigmatisée que les fluides féminins qui vont être vraiment perçus comme dégoûtants. Mm. Et justement, en Angleterre, le parti socialiste Labour a promis donc des mesures, et c'est la secrétaire aux femmes et aux égalités, au pluriel, qui promet que si ce parti revient au pouvoir, les grandes entreprises devront mettre en place une politique sur la ménopause au bureau pour réduire la stigmatisation de cette période de la vie.
C'est chouette, si la France pouvait écouter ça, ce serait pas mal.
Voilà, maintenant on va voir comment dans d'autres présentations et chez d'autres femmes, tout cela peut être vécu beaucoup plus sereinement.
Oui, alors en ce moment à Paris, il y a une exposition de l'artiste américaine Kiki Smith, on y reviendra, et quand on l'a rencontrée, elle racontait que pour elle, la ménopause avait vraiment été une libération et qu'elle avait vécu des années d'empoisonnement aux hormones, donc ses propres hormones et j'imagine aussi une contraception hormonale. Mais c'est vrai que comme aujourd'hui, la vision médicale de la ménopause continue à primer, les féministes ont vraiment fait tout un travail pour modifier ce regard-là. Et ça, ça ne veut pas dire minimiser la souffrance des femmes, comme la médecine le fait très bien, mais au contraire, voilà, essayer d'en dire aussi autre chose. Et d'ailleurs, il y a un livre américain qui s'appelle Menopause and Emotions, écrit par Laferne Page, dans lequel elle détaille trois stéréotypes négatifs qui sont la détérioration physique, mentale et sociale. Et elle parle aussi du développement de toute une industrie en fait, de la ménopause pour essayer de refourguer des œstrogènes, des progestatifs à gogo. Et en fait, elle va vraiment prendre le contre-pied de tout ça et expliquer qu'en fait, c'est vraiment une phase de transition et qu'elle peut développer, voire accentuer l'autonomie des femmes et leur identité. Et donc, elle recommande par exemple de mener des groupes de discussion, des groupes de parole autour de la question en étant entre meufs plutôt que de laisser des vieux médecins mecs et des labos décider pour nous. Et d'ailleurs, aux États-Unis, il y a même des ménopause parties organisée par les femmes pour fêter ça, je trouve ça trop cool.
J'adore. Oui, bah pour certaines, c'est une bénédiction, la ménopause. Et dans BuzzFeed, il y a même une personne qui a parlé de repenser le genre et de se dégenrer comme d'une libération à ce moment-là de la vie. Donc elle dit « Mes cheveux sont moins beaux, on m'a appelé monsieur et je fais moins d'efforts, d'artifices pour performer ma féminité. » Et donc, elle dit que c'est une expérience de ungendering, donc se dégenrer, et que, en tout cas, pour cette personne-là, c'est quelque chose de positif dans sa vie.
Oui, et alors aux États-Unis, il y a vraiment une personne qui a été longtemps la voix de la ménopause, c'est Sandra Tinglo. Et elle avait notamment écrit en 2011 dans le magazine The Atlantic un article qui s'appelait The Bitch is Back, qui parlait des clichés sur les femmes ménopausées, selon lesquels, évidemment, les clichés sexistes, c'est que les femmes ménopausées perdraient la tête, elles seraient complètement zinzin, elles feraient n'importe quoi. Et elle a dit, en fait, non, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que quand la fertilité s'éteint, en fait, c'est le retour à la normale et à la santé mentale. Et en fait, cette théorie-là a eu tellement de succès qu'elle en a fait un livre et ensuite une pièce. Voilà, on l'écoute en parler.
When my editor suggested I write about menopause, I went, ew. Menopause.
On peut aussi dire que le vécu de la ménopause est différent en fonction de son milieu, on l'a dit, mais aussi selon la race au sens sociologique du terme, la classe, etc. Par exemple, dans le Black Women's Health Book, on apprend que les femmes noires déclarent avoir 10% de moins d'ostéoporose que les femmes caucasiennes. Donc on ne peut pas en fait plaquer les mêmes vécus sur toutes les femmes. On peut aussi citer l'essai LGBT Women of the 14 Moon, dans lequel on apprend en fait que la ménopause, c'est aussi un moment où des femmes décident de devenir lesbiennes, entre guillemets, et trouvent un compagnonnage fécond entre elles. Par exemple, il y a l'autrice Henrietta Bensouzen qui écrit « L'une des premières choses que j'ai réalisées, c'est que je ne voulais pas de mari ou d'homme, et que ce qui était important pour moi, c'était la compagnie des femmes. J'ai fait mon coming out lesbien à moi-même. » Donc ça peut aussi être un moment comme ça, la ménopause.
Elle est poubelle, les mecs. D'ailleurs, il y a une chercheuse australienne qui va dans ce sens-là, c'est Jennifer Kelly, qui a étudié elle aussi la ménopause chez les lesbiennes, et elle dit que il y a beaucoup moins l'idée de deuil de la fertilité que chez les femmes hétérosexuelles, et qu'on voit davantage le fait de partager cette expérience-là avec une compagne qui peut effectivement comprendre ce que vous traversez.
Oui, ça doit aider. Et moi, je voulais juste citer le dossier sur la ménopause dans Cosette, qui est paru il y a quelques mois, qui était très bien, et où il y avait pas mal de témoignages de femmes aussi qui disaient que la ménopause, c'était un chouette moment aussi, puisqu'on était libérés des règles et des questions de contraception. Donc ça pouvait aussi être un moment fécond, justement.
Moins de charge mentale et de douleur.
Ouais. Et donc, il y a certaines femmes qui se sentent vraiment libérées de ce poids-là. Et on va notamment en interviewer l'une d'elles, qui est l'essayiste, journaliste féministe Élise Thiébaud, qui a écrit notamment « Ceci est mon sang » et qui a sorti récemment un essai qui s'appelle « Mes ancêtres les Gauloises » aux éditions La Découverte, et qui porte sur la notion d'identité nationale qu'elle va déconstruire à travers sa propre généalogie. Voilà, mais là, on va l'écouter parler de ménopause.
Alors la ménopause, pour moi, ça a été en fait une bénédiction parce qu'elle a coïncidé avec la fin des douleurs chroniques dont je souffrais à cause de l'endométriose. Pour parler de ces symptômes, alors moi j'ai plutôt envie de parler de manifestations. Il y a par exemple les bouffées de chaleur. Et je dois dire la vérité, j'ai adoré les bouffées de chaleur. D'abord parce que je suis très frileuse, donc enfin j'avais chaud, j'avais un petit calorifère intérieur, j'avais ce feu qui brûlait en moi et qui était une vraie boussole de mes sensations. Il y a quelque chose d'autre qui arrive avec la ménopause, c'est quelque chose qui est associé à la question de la sexualité, du désir. On est évidemment jugé moins désirable et c'est quelque chose de difficile à vivre pour beaucoup de femmes d'avoir le sentiment de perdre leur valeur sur le marché. Moi, j'ai en même temps ressenti quelque chose du registre du soulagement. Mais le fait de prendre de l'âge, de laisser mes cheveux gris apparaître, eh bien, ça m'a rendue invisible dans l'espace public. Et cette invisibilité, elle a été extrêmement agréable parce que je me suis rendu compte, encore une fois, un peu a posteriori, à quel point ça pesait sur moi d'être sans cesse jugée ou exposée à des manifestations de ce jugement qui était en vérité une forme d'intrusion. Mon rapport au désir a changé aussi, s'est modifié. Toutes mes sensations et toute ma sensualité se sont modifiées parce que ça m'a rendue attentive à des sensations beaucoup plus subtiles. Même si ma vie sexuelle n'est pas la même que celle qu'elle était avant, en même temps, ça a libéré du temps de cerveau disponible et je me suis jamais autant réalisée en tant que personne que depuis que j'ai la ménopause. Quand j'ai fait état des troubles que je rencontrais en raison de la ménopause, que ce soit les bouffées de chaleur, les insomnies, la sécheresse vaginale ou les vaginoses qui y sont associées, on m'a très souvent proposé de prendre un traitement hormonal substitutif de la ménopause. Et à chaque fois, j'ai été scandalisée parce que voilà, l'OMS a dit depuis 2000 hein, que les traitements hormonaux substitutifs de la ménopause étaient cancérigènes. Des rapports plus récents encore nous montrent que même à faible dose, ça présentait un danger pour la santé et que ça ne résolvait rien. Hein. Quand on a commencé à la prescrire dans les années 75 aux États-Unis, on les prescrivait ces traitements systématiquement à toutes les femmes. On leur promettait l'éternelle jeunesse. Et pour finir, eh ben, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une augmentation considérable du nombre de cancers hormonodépendants. Et encore aujourd'hui, les laboratoires continuent à travailler et les médecins continuent à prescrire des traitements hormonaux substitutifs de la ménopause sans que les femmes soient véritablement informées sur leurs effets. Ce qui est, entre autres, mais pas seulement, l'objet du livre que je suis en train d'écrire sur la ménopause, où j'essaye de croiser la façon dont aujourd'hui peut se vivre la ménopause à partir de mon expérience.
Donc voilà, c'était Élise Thiébaud, et allez lire son livre « Mes ancêtres les Gauloises ». Maintenant, on va parler de notre expérience personnelle, même si on n'est pas encore exactement en âge d'être ménopausée. Mais toi, Clémentine, qu'est-ce que ça t'évoque, la ménopause ?
Bah, en fait, maintenant, après avoir fait cet épisode, dès que je me mets à transpirer ou que je me sens bizarre, je me demande si je suis pas en pré-ménopause. Alors qu'en fait, je suis juste en gueule de bois. Mais c'est marrant parce qu'en fait, moi, ma mère m'en a jamais parlé et j'en ai jamais parlé avec elle. Et en fait, j'ai jamais remarqué qu'elle s'éventait particulièrement ou qu'elle était particulièrement énervée. Mais je pense qu'aussi, pour certaines personnes qui ont des enfants, la ménopause peut arriver au moment où on a aussi des enfants qui sont adolescents et qui ont leurs propres problèmes d'hormones pourris à gérer. Donc en fait, voilà, ça doit être le chaos à la maison, je sais pas. Et c'est vrai que voilà, le mot a longtemps été un peu repoussoir pour moi. Mais en fait, j'essaie vraiment de changer de regard dessus. Et je pense que là, je commence un peu à attendre ce jour comme le grand soir. Parce que voilà, je me dis que socialement, t'as un peu que deux modes. T'as soit bonne à niquer, soit invisible à la poubelle. Et en fait, je pense que limite, je préfère être à la poubelle et qu'on me foute la paix. Mais en tout cas, voilà, je trouve dommage qu'on ait du mal aujourd'hui à dire qu'on a ses règles. Et du coup, bah forcément, ça reste aussi compliqué de dire qu'on n'a plus ses règles. Donc dans les deux cas, c'est chiant. Mais je pense que dans quelques années, on pourra utiliser l'excuse de la ménopause pour dire « Bah écoute, j'ai des bouffées de chaleur, donc je vais rester à chiller devant Netflix. Allez, bye bye !» Et toi ?
Peut-être qu'on devient désirable aux yeux des bonnes personnes aussi.
Ouais,
c'est-à-dire
clair.
Que si des
genre
personnes...
ses amis.
Oui. Si des personnes pensent qu'on est plus désirable à la ménopause, je pense que c'est une bonne manière de trier aussi dans les gens avec qui on couche.
Ouais, poubelle.
Voilà. Donc moi, pareil, ma mère ne m'a jamais parlé de la ménopause comme d'un problème. En fait, je l'ai juste associée à l'arrêt de ses règles. Genre, elle avait plus de protection hygiénique, quoi, à me prêter. Et en fait, je l'ai appelée hier soir pour lui demander et elle m'a dit qu'elle avait juste eu des sueurs nocturnes qui la gênaient pas. Mais en fait, c'est ma grand-mère, donc sa mère à elle, qui l'a apparemment tannée pour qu'elle ait recours à un traitement hormonal de substitution. Et elle lui disait que si elle le prenait pas, elle allait devenir bossue, comme sa tante.
Mais c'est quoi le rapport?
Ben, je sais pas, donc c'est un bel exemple de cette idée de
devoir... C'est la bosse de manque d'hormones.
Ouais, c'est l'idée qu'il faut discipliner son corps au risque que celui-ci s'écroule et ouais, devienne bossu.
Part complètement en couille.
Voilà, et en fait, ma mère avait demandé à son médecin qui lui avait dit que ça n'avait aucun sens.
Légende urbaine.
Et que si elle n'était pas gênée par ses symptômes, il n'y avait pas tellement de raisons qu'elle se soumette à un traitement hormonal. Donc aussi, elle m'a dit qu'elle était choquée parce qu'elle avait entendu des gens dire « Oh, est-ce que c'est pas trop dur de faire le deuil des enfants ?» Alors que bon, quand t'as 50 ans, t'es à un autre moment de ta vie, je pense que... Enfin, t'es pas...
T'as plus le time, en fait, c'est bon, c'est fini.
Voilà. Et me concernant, sans avoir hâte, ce n'est pas un moment de la vie qui me fait vraiment peur. En fait, je me dis que c'est un moment où justement, si tu as des enfants, ils sont plus forcément dans tes pattes, ou alors ils sont grands, enfin un peu plus grands, et tu peux sûrement plus te concentrer sur toi, ta carrière, tes envies. Et sans parler d'enfants, je me dis que c'est un moment aussi où tu dois avoir plus d'assurance dans qui tu es et ce que tu as accompli, donc ça je trouve ça cool. Et puis bah, comme les mecs en fait qui sont au top à 50 ans, et puis d'un côté ça m'emmerde en fait l'idée qu'on devienne plus baisable, mais comme j'ai dit en fait ça permet de trier les gens. Et aussi moi je connais plein de femmes de 50 ans qui me disent que la réalité ne correspond pas du tout aux représentations et qu'en fait c'est aussi cool de baiser tranquille
grave.
À cet âge-là. Et par ailleurs, je lis aussi le courrier des lecteurs d'un magazine porno régulièrement pour des raisons que, voilà, parce que je travaille pour ça. Et il y a des femmes qui parlent parfois de leur ménopause et qui disent que c'est pas forcément évident, mais que ça les empêche pas de s'éclater, au contraire, et de faire du libertinage et autre chose rigolote.
Ouais. Oui, on est aussi libéré de certaines contraintes, j'imagine. Et alors, du côté des conseils, moi, je me demandais pourquoi il n'y avait pas un « paye ta ménopause ». Peut-être qu'il faut le créer, je ne sais pas, on peut lancer un appel.
C'est ça. Non, mais par contre, il y a la page « Ménopause Misery » sur Facebook en anglais. C'est un groupe privé, il me semble, mais moi, j'avais demandé à être dedans. Et j'y suis, et c'est génial, parce que les femmes partagent leur vécu. C'est très riche, il y a plein de ressources. Donc, vous pouvez demander à être invité dans ce groupe.
Et alors, du côté de la pop culture, j'ai l'impression qu'il y a un petit déficit de ménopause dans les représentations.
À l'écran, ouais. Ben oui, on peut déjà parler du problème de l'invisibilité des femmes. Donc, il y a trop peu de femmes de 50 ans dans la pop culture qui sont représentées. En France, une femme majeure sur deux a plus de 50 ans. Et pourtant, au cinéma, nada. Il y a un manifeste sur ce fameux tunnel de la comédienne de 50 ans de l'association AAFA, Actrice-Acteurs de France Associée, qui l'a pointé. Et par exemple, en 2015, sur tous les films sortis, en fait, les quinquas femmes ne représentaient que 8% des rôles et 6% en 2016. Donc, on est loin du compte.
Mmh. Et tous ces rôles sont joués par Catherine Deneuve.
Mais... ou Agnès Jaoui.
C'est ça. Mais alors, en ce moment, quand même, il y a Terminator Dark Fate, faut quand même pas l'oublier, avec Linda Hamilton, qui a 63 balais, toutes ses dents et son gun. D'ailleurs, elle est sur l'affiche en plus grand que Arnold Schwarzenegger, qui est quand même le symbole phallique ultime et qui, là, est vraiment un peu bon à la casse, quoi.
Hasta la vista, baby.
Mais c'est vrai qu'en général, il y a tellement de films faits sur la crise de la quarantaine masculine et sur comment les hommes vieillissent, les pauvres chéris, que ce serait bien d'avoir un peu des équivalents féminins. Ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que pas mal de femmes célèbres se demandent comment faire leur coming out de ménopause. Il y a par exemple Angelina Jolie, donc qui a subi une double mastectomie et une ablation des ovaires préventive, voilà, pour ne pas avoir de cancer.
Mais ça, c'est lié à son passé génétique aussi, enfin la génétique de sa famille.
Ouais, mais du coup, ça a déclenché une ménopause et donc elle en a parlé très ouvertement. Okay. Il y a aussi l'actrice Gillian Anderson qui en a parlé dans la newsletter Lenny. Elle disait qu'en fait, elle avait eu des signes de pré-ménopause à la trentaine qu'elle avait complètement ignoré. Elle n'avait pas compris ce que c'était. Un médecin lui en avait parlé, puis elle n'avait pas pris ça en compte. Et qu'en fait, plus récemment, il y a quelques années, elle avait complètement pété les plombs, tout l'insupporté. Elle avait l'impression que quelqu'un avait pris le contrôle de son cerveau. Et donc voilà. voilà, elle s'est mise à discuter de la ménopause avec d'autres femmes qui se rendaient pas forcément compte en fait de quels étaient leurs symptômes et à quoi ça correspondait. Et elle disait que parfois il fallait aller chez plusieurs médecins pour savoir ce qu'on avait et que c'était aussi il y avait une question de privilège en fait et de finances quoi.
Mais c'est vrai que paradoxalement il y a un manque d'information qui fait que certaines femmes en fait savent pas du tout où elles en sont parce que justement c'est tabou. Moi je voulais parler du film Aurore de Blandine Lenoir avec Agnès Jaoui. Bon en fait je l'ai pas vu j'avoue, mais en fait je voulais le dire parce que Agnès Jaoui, je pense qu'en France c'est justement une des seules actrices de plus de 50 ans qui tourne assez régulièrement, mais qui est aussi souvent renvoyée à son âge. Et je pense que ça serait bien que ça soit un non-sujet en fait. Après moi je l'avais bien aimée dans Comme un avion de Denis Podalydès où il me semble que justement elle n'était pas renvoyée spécialement à son âge et que il y avait des scènes d'amour qui étaient cool. Mais voilà, enfin ça reste encore compliqué de montrer des femmes quinquagénaires qui soient pas genre en train de devenir grand-mère ou voilà, enfin qui soient pas réduites à ça en fait.
Ouais. Et d'ailleurs, il y a une scène assez culte dans la série Fleabag, dont on a déjà parlé dans un mini-épisode. Donc, c'est dans la deuxième saison, avec l'actrice Christine Scott Thomas, qui se lance dans un grand monologue de la ménopause. On l'écoute.
We have pain on a cycle for years and years and years. And then, just when you feel you are making peace with it all, what happens? The menopause comes. The fucking menopause comes. And it is... the most wonderful fucking thing in the world. And yes, your entire pelvic floor crumbles and you get fucking hot and no one cares. But then, you're free.
Donc pour résumer, elle dit qu'en fait, quand on est une femme, on a mal toute sa vie, on en chie et qu'ensuite, tada, c'est fini grâce à la ménopause. Elle dit, voilà, c'est horrible, mais c'est aussi magnifique. Il y a une autre série qui est sur Netflix, c'est Working Moms, dans laquelle on parle brièvement de périménopause.
J'adore cette série.
Moi aussi. Et toujours sur Netflix, il y a la série animée Big Mouth qui représente souvent les hormones par des monstres. Et dans ce cas précis, il y a la ménopause Banshee, c'est une sorte de sorcière qui va venir hanter la mère du héros, mais surtout la rassurer, puisqu'elle dit le prochain chapitre de ta vie, c'est toi qui vas le vivre, et puis voilà, t'as plus à te soucier de rien, you have no fucks to give. Voilà.
Cool.
Ouais, et enfin, il y a aussi le spectacle de stand-up de Wanda Sykes, qui est aussi sur Netflix, qui s'appelle Not Normal, et qui dit il n'y a pas moyen, si les mecs avaient la ménopause, ils pèteraient un câble. S'ils avaient des bouffées de chaleur, ils tireraient des missiles vers le soleil, et voilà, ils deviendraient complètement fous. Toi, qu'est-ce que tu as comme recommandation à nous faire cette semaine ?
Oui, donc moi, cette semaine, j'ai lu le livre de Camille Emmanuel, Le goût du baiser. Donc, c'est une fiction érotique adolescente parue aux éditions Thierry Magnier, qui raconte l'histoire d'Aurore, une lycéenne qui vit ses premières expériences sexuelles et qui a perdu le goût après un accident de vélo. Et donc, elle essaie de se raccrocher à ses autres sens. Et on y parle notamment de consentement, de désir, de masturbation, d'amour, de féminisme. Bref, le livre, c'est le livre qu'on aurait aimé lire à nos 16 ans.
Ouais, si on n'avait pas eu Judy Blume d'ailleurs, je sais pas comment on aurait fait.
Et toi ?
Alors moi, c'est un spectacle de stand-up, donc d'une comédienne qui s'appelle Tani, qui se joue à la Comédie des Trois Bornes en ce moment à Paris. Mais ça va sûrement tourner un peu partout en France, rassurez-vous. Et donc, elle raconte dans ce spectacle comment gérer le fait d'être à la fois ch'ti et antillaise, d'avoir une touffe de cheveux que tout le monde veut toucher, et aussi d'être Gwyn et de faire son coming out. Voilà, alors le spectacle vient de commencer. J'imagine qu'il est encore un peu en cours de rodage. Mais voilà, c'est un joli début et ça s'appelle Tani l'autre enfant.
Ça a l'air cool.
Oui. Alors cette semaine, c'est Stine qui nous a écrit sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire pareil pour qu'on vous réponde. Elle nous dit « Face à ma mère et mon beau-père, j'ai du mal à défendre le fait même que quand on s'habille en mini-jupe et on renvoie une image de bimbo, on peut être féministe. Exemple Pamela Anderson. Ou quand des nanas, entre guillemets, vendent leur corps pour des pubs en sous-vêtements dénudés, etc. » Donc à part dire qu'elle fait ce qu'elle veut de son corps et qu'elle s'habille comme elle veut et que l'habit ne fait pas le moine, j'ai pas vraiment d'autres arguments. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui répondre, Pauline ?
Oui, salut Stine, merci pour ta question. Donc, je trouve que c'est déjà un bel effort de ta part d'essayer de leur expliquer tout ça. Donc, dire que le corps d'une femme lui appartient et que le féminisme d'une femme ne se limite pas à la longueur de sa jupe, c'est déjà bien. Tu peux aussi leur dire que c'est justement les représentations sociales et culturelles qui véhiculent l'idée qu'on ne peut pas être une bimbo et une militante, ou que si on dénude son corps pour gagner sa vie, il ne faut pas s'étonner de souffrir du machisme. Tu peux dire que les femmes composent avec leur réalité et leurs limites, et le patriarcat tout simplement, que certaines, pour vivre, ont choisi d'utiliser leur corps parce que justement, dans une société patriarcale, c'est une forme de capital dont elles peuvent retirer quelque chose si elles le décident, que certaines n'ont pas le choix et que d'autres choisissent de se dénuder dans la rue ou au travail parce que ça leur plaît. Et tu peux leur dire enfin que le féminisme, c'est justement de choisir pour soi ce qui nous correspond et que c'est courageux puisque de toute façon, quoi qu'on fasse en tant que femme, ça ne va jamais. On est trop couverte ou pas assez, trop coincée ou trop salope. Alors décider pour soi, je pense que c'est le plus important. Et enfin, tu peux leur dire que le féminisme, c'est aussi respecter les choix des autres femmes.
Voilà, ça devrait leur fermer leur caquet pour un moment.
Bonne chance pour recopier tout ça.
Bon, en tout cas, nous, j'espère qu'on a fait un peu le tour de la ménopause pour l'instant et qu'on va en entendre parler de plus en plus sur les réseaux sociaux et autour de nous.
Oui, et envoyez-nous vos témoignages sur la ménopause sur les réseaux sociaux @quadmeuf. Et si vous aimez cette émission, parlez-en autour de vous et laissez-nous des étoiles sur Apple Podcast.
Vous pourrez retrouver tous les liens et les références dont on a parlé dans la description de l'épisode. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode court où on va parler de poésie. Salut Pauline.
Salut Clémentine.
Quoi de meuf est une émission de nouvelles écoutes conçue par Clémentine Gallo
et présentée avec Pauline Verduzier,
montée et mixée par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, à la prise de son Grégoire Amouma au studio Belleville et à la coordination Ashley Tola.